Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
Première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur Radio Canu et c'est le Canu Info du lundi 24 mai et on commence tout de suite avec l'annonce des titres.
Et à l'international, on verra que la crise à Ceuta entre l'Espagne et le Maroc tue encore et toujours avant de prendre la direction du Sénégal pour vous parler du mouvement réactionnaire homophobe.
Et au national, on parlera d'abord de la loi confiance dans la justice qui ressemble bien à des cadeaux de Dupond-Moretti à la police. On enchaînera ensuite sur la répression contre les lycéens mobilisés. Et enfin, on parlera des salariés de MBF qui menacent de faire sauter leur usine. Boum!
Au local, on aura un sujet sur une mobilisation qui a eu lieu mardi pour fêter la victoire des cheminots contre le licenciement de leur camarade Joe. Et on aura une petite annonce également pour une belle manifestation qui aura lieu le 30 mai. Et on finira sur une interview sur la situation en Palestine.
Et avant de commencer, on voulait faire un petit coucou à Serge Dorny, le directeur de l'Opéra de Lyon, coucou, qui visiblement coucou. Nous écoute beaucoup, ainsi que le cabinet d'huissier Ponce-Mergui et le cabinet d'avocat Paya Contibori, qui visiblement n'ont que ça à foutre que d'écouter le Canu Info du lundi pour ensuite justifier de l'évacuation des occupants de l'Opéra. Un petit coucou et gros bisous.
Gros bisous. À bientôt.
Et si ils écoutent, c'est l'heure des brèves.
Et oui, donc on commence avec les brèves, avec plutôt une bonne nouvelle, puisque les 22 mois de lutte pour les femmes... Quand on fait des signes que... non, mais le micro est sans tafond, je crois que c'est ce micro qui est assez faible. Donc je disais, les 22 mois de lutte menés par les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, sur lesquelles totalisent 9 mois de grève, est une lutte qui a payé. Elles ont notamment obtenu la requalification de leur contrat en CDI, une revalorisation de leur salaire d'entre 250 et 500 euros, la baisse des cadences, la fin du paiement à la chambre, qui, entre parenthèses, était de toute façon illégale, et d'autres avantages comme un panier repas et la prise en charge de l'entretien de leur tenue de travail. Et tout ça, c'est bien la moindre des choses, et c'est d'ailleurs pas grand-chose au regard du prix des chambres qu'elles nettoient, puisque l'hôtel Ibis Batignolles est un hôtel 3 étoiles où le prix de la nuit peut dépasser les 200 euros. Elles n'auront par contre pas obtenu d'être directement salariées de l'hôtel et restent employées par le sous-traitant STN. Et il ne faut donc pas oublier que les femmes de chambre restent un travail précaire, dans l'immense majorité accomplie par des femmes et surtout des travailleuses immigrées qui sont invisibilisées par la sous-traitance. Information moins positive maintenant, le syndicat Sud-Éducation 69 informait la semaine dernière qu'une enseignante a été empêchée de donner cours par la proviseure du lycée de Saint-Bel sous prétexte qu'elle portait un masque arc-en-ciel. Décision apparemment approuvée par le rectorat qui l'a sommée de ne plus porter ses couleurs parce que cela enfreindrait son devoir de neutralité et pourrait être perçu comme faisant la promotion de certaines pratiques. Et là, je le cite. Enfin, je cite ce qui a été cité par Sud Éducation, et on note quand même que le rectorat nie ces faits. Et puis maintenant, dernière clownerie politique dont on ne sait si on doit en rire ou en pleurer. Darmanin a annoncé porter plainte pour diffamation contre Audrey Pulvar pour avoir décrit la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale de glaçante. En fait, sa plainte portera apparemment aussi sur des propos qu'elle a tenus par le passé, et notamment une vidéo de juin 2020 où elle parlait de racisme dans la police. Des faits assez minces pour être reçus comme diffamants, et la plainte n'aboutira sûrement pas. Mais l'objectif de Darmanin est bien de séduire la police et de donner un prétexte aux médias de plaindre les policiers, laissant croire qu'on les laisse se faire tabasser par des hordes de jeunes en colère. Car cette manifestation était peut-être glaçante, mais elle était surtout indécente, car c'est un mensonge que d'avancer que de s'en prendre à un flic n'est que légèrement puni. Et la réalité est plutôt qu'on peut être puni quand un flic s'en prend à nous, puisque les mensonges de policiers sont systématiquement acceptés comme parole d'évangile, et c'est bien envers les flics que la justice est clémente. Vous le savez si vous êtes de fidèles auditeurs des Canu Info. Mention spéciale dégoût à Fabien Van Hemmelrijk, secrétaire national du syndicat Alliance, qui a déclaré lors de la manifestation de mercredi « Tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix », reprenant à son compte le slogan bien connu et entre autres utilisé contre les violences policières. Et d'ailleurs, toujours dans le même thème, la dernière pleurnicherie des syndicats de policiers porte sur un timide amendement dans le projet de loi de confiance dans la justice qui pourrait permettre la présence d'un avocat lors des perquisitions. Je dis timide car il ne s'agirait même pas de le rendre obligatoire, mais uniquement qu'il ne soit pas possible de s'opposer à sa présence. Et enfin, à Montpellier s'est tenu jeudi et vendredi dernier le procès des 7 agresseurs ayant participé à l'attaque des étudiants qui occupaient la fac de droit en mars 2018 contre le projet de loi ORE. À l'époque, la police décide de ne pas intervenir sur cette occupation car elle ne présentait pas de danger. Au grand dam de l'ex-doyen de l'université Philippe Pétel, du prof d'histoire de droit Jean-Luc Coronel de Boissezon et sa femme Patricia Margan, qui au passage était candidate royaliste aux législatives de 2012 à Lyon. Il rassemble donc des amis, parmi lesquels sera identifié un militant de la Ligue du Midi ayant déjà été condamné pour avoir poignardé un antifa, ainsi que des étudiants anti-occupation. Au total, c'est une dizaine de personnes cagoulées, armées de bâtons et de tasers, qui s'en sont pris aux étudiants, dont au moins 6 seront blessés. À l'extérieur, la police nassera les étudiants qui s'enfuient tout en laissant partir les agresseurs. Et puis s'en suivent aussi des tentatives d'obstruction de la justice, mais on vous en parlera certainement plus en détail la semaine prochaine. En tout cas, jeudi, les plaignants ont décidé rapidement, après l'ouverture du procès, de quitter la salle avec leur avocat pour se désolidariser d'une justice qu'ils accusent d'être bourgeoise et complice. Lors du procès, les prévenus ont quand même avoué les faits et le procureur de la République ne requiert que, alors petite liste, 18 mois avec sursis pour l'ex-doyen, 10 mois ferme pour le professeur d'histoire de droit, 1 an avec sursis contre sa femme, 1 an ferme pour le membre de la Ligue du Midi et surtout seulement 5 ans d'interdiction d'exercer dans la fonction publique pour Philippe Pétel et Jean-Luc Coronel de Boissezon. Considérant donc qu'il est tout à fait acceptable que ces personnes organisateurs de milices fascistes retrouve des postes d'enseignants dans 5 ans. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour plus de détails sur cette affaire et sur la façon dont elle a été traitée par la justice. Et puis le délibéré, ce sera le 2 juillet.
Et tout de suite, on passe à...
International.
Et on commence avec un sujet donc sur la crise à Ceuta entre l'Espagne et le Maroc.
Et oui, en 24 heures, près de 8000 migrants sont rentrés dans l'enclave coloniale espagnole de Ceuta au nord du Maroc. Pour vous donner une idée, ce chiffre correspond à la somme des arrivées cumulées entre 2018 et 2019. Cette nouvelle crise migratoire donc a été déclenchée par la volonté du Maroc d'obtenir la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Or, pour parvenir à ses fins, la monarchie réactionnaire et pro-impérialiste de Mohamed VI n'a pas hésité à ouvrir les vannes de l'immigration pour faire pression sur l'Espagne, comme si des milliers de vies n'étaient qu'une vulgaire monnaie d'échange. Alors pour rappel, la frontière de Ceuta représente une zone militarisée de 8 km où se succèdent miradors, double clôture électrifiée de 6 mètres de haut, caméras infrarouges, patrouilles marocaines qui, en échange d'aides économiques, sous-traitent la surveillance des frontières de l'Europe. Impossible donc que ces milliers de personnes qui sont passées le soient sans l'aval des autorités marocaines. Il faut donc chercher les raisons de ces événements dans des enjeux plus larges qui sont diplomatiques et surtout géostratégique. Ancien protectorat espagnol, donc, le Sahara occidental couvre 260 000 km² et bordé par la province marocaine de Tarfaya au nord, l'Algérie au nord-est et la Mauritanie au sud-est. Le problème, c'est que ce territoire est revendiqué à la fois par le Maroc et par la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, proclamée par le Front Polisario en 1976. Ce dernier, c'est un mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie qui réclame très simplement l'organisation d'un référendum d'autodétermination constamment reporté depuis 1991 où un cessez-le-feu avait été signé après 16 années de conflits armés. Dans cette région donc qui concentre des ressources pétrolières et gazières, le Maroc se comporte comme un colonisateur. Il veut non seulement exploiter les richesses naturelles, mais il veut aussi faire du Sahara occidental un point de liaison commerciale et industrielle entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Un autre déclencheur de cette crise a été l'hospitalisation en Espagne de l'un des chefs du Front Polisario qui s'appelle Brahim Ghali, ce qui a rendu très très en colère Mohamed VI. Cette étape, cette crise, ce n'est qu'une étape supplémentaire puisque l'année dernière déjà, Mohamed VI avait troqué avec Donald Trump la cause palestinienne contre la reconnaissance par les États-Unis de sa souveraineté justement sur le Sahara occidental. Les flux migratoires sont donc utilisés par des États réactionnaires comme un moyen de pression pour obtenir des faveurs économiques. Ou des avancées géopolitiques. Le Maroc n'hésite donc pas à marchander son passage à la frontière et cette politique du marchandage, on l'a dit, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Les réactions espagnoles, elles, ne sont pas fait attendre puisque le gouvernement de PSOE, qui est donc constitué par Podemos et par les socialistes, donc les Espagnols ont tout de suite envoyé l'armée pour expulser près de la moitié des arrivants. L'Espagne a donc tout juste gardé le nombre d'exilés nécessaires pour ramasser les fruits au sud de l'Espagne, en Italie, en passant par la vallée du Rhône, où il manque une main-d'œuvre agricole bon marché. Beaucoup dénoncent un chantage inhumain de la part du Maroc, ce qui est vrai, mais il ne faudrait quand même pas oublier que si Rabat est en mesure d'exercer ce type de chantage, c'est bien parce que l'Europe lui sous-traite le contrôle de ses frontières et lui donne le beau rôle de gendarme ultra-répressif. Alors que les droits des peuples palestiniens et sahraouis sont bafoués par les impérialistes et leurs alliés locaux, la solidarité envers ces peuples opprimés pour le droit à l'autodétermination est une urgence que nous réaffirmons ici.
Et on part tout de suite un petit peu plus au sud, au Sénégal, où sévit une mouvance réactionnaire homophobe.
Oui, le 17 mai avait lieu la journée mondiale de lutte contre les LGBTQI-phobies. Mais au Sénégal, ce week-end, c'était plutôt les réactionnaires qui étaient sortis avec une manifestation le 23 mai pour demander le durcissement de la pénalisation de l'homosexualité. L'homosexualité est déjà réprimée comme un délit au Sénégal, considéré comme un acte contre nature par le code pénal et puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 à 1 500 000 francs d'amende. A noter d'ailleurs que cet article qui réprime l'homosexualité a été mis en place à l'époque coloniale où la France occupait le pays. Plusieurs associations et organisations politiques accusent le gouvernement sénégalais de vouloir décriminaliser l'homosexualité et font actuellement une campagne de pétition et d'appel à signature d'élus dans tout le pays, appelant à criminaliser l'homosexualité encore plus et à durcir la loi pour faire doubler les peines encourues. La situation s'empire donc pour les personnes LGBTQIA+ du Sénégal qui risquent toujours l'emprisonnement et subissent actuellement la multiplication des actes et discours haineux, une pression encore plus forte et de nombreuses violences à la clé. Les personnes LGBTQIA+ venant de pays où leur sexualité ou leur identité de genre est criminalisée, comme au Sénégal, trouvaient parfois refuge en France. Mais en ce 17 mai, toujours journée mondiale de lutte contre les LGBTQI-phobies, le collectif Exil LGBTI, qui regroupe des associations et centres LGBTI en France qui viennent en aide aux personnes venues se réfugier et demander l'asile, lance l'alerte face au très grand nombre de demandes d'asile de personnes LGBTI rejetées par l'OFPRA ces derniers mois. Le plus souvent, l'administration française justifie son rejet en expliquant que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de la personne ne peut pas être établie et donc que cette personne n'est pas persécutée. Le collectif Exil LGBTI dénonce le caractère infondé de ces décisions, qui relèvent d'une volonté politique, la pression de la politique anti-immigration. Et de plus, l'association ARDIS, qui est donc l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour, s'alarme d'un recul sans précédent et de fond du droit d'asile LGBTI. C'est lié à une décision de la Cour nationale du droit d'asile de septembre 2019 qui rejette la demande d'asile d'une femme lesbienne de la République démocratique du Congo en motivant sa décision de façon très inquiétante. Dans cette décision, la Cour du droit d'asile établit l'orientation sexuelle de la personne, reconnaît que les personnes LGBTI constituent un groupe social persécuté en RDC, mais juge que cette personne avait vécu sans difficulté en RDC pendant des années et qu'il n'y a donc pas lieu de lui octroyer une protection. Cette décision a été contestée au plus haut des juridictions auprès du Conseil d'État, mais qui a donné raison à la CNDA récemment en mars 2021. Donc, alors que pendant des années, on était venu à considérer que les demandeurs d'asile LGBTI pouvaient obtenir le statut de réfugié dès lors qu'ils étaient originaires d'un pays où ils étaient persécutés pour leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, maintenant, les magistrats français attendent en quelque sorte qu'une personne ait été victime du pire dans son pays d'origine pour lui donner le droit d'asile en France. L'ARDIS constate d'ailleurs que la CNDA applique déjà ce raisonnement à des personnes issues de pays où les relations homosexuelles sont pourtant gravement pénalisées, comme l'Algérie et le Sénégal dont on a parlé au début. Au Sénégal comme en France, mobilisons-nous largement contre les réactionnaires LGBTQI-phobes et anti-immigration.
Et puis maintenant on passe au...
National.
Avec un sujet sur la loi Confiance dans la justice.
Et oui, les députés ont en effet entamé mardi dernier l'examen du projet de loi dite pour la confiance. Avec un nom pareil, on pouvait déjà s'attendre au pire, puisque le texte de loi initial marquait en effet une attaque importante contre certains droits, tels que les réductions de peine automatiques pour les détenus, également une réduction possible des salaires horaires des détenus ayant un travail, alors que ces derniers avoisinent à peine les 2 euros de l'heure et les réduit quasiment à de l'esclavage au profit de quelques entreprises qui les exploitent. Ou encore, la limitation de la durée des enquêtes. Autant de mesures qui marquent un durcissement de l'appareil répressif judiciaire et montrent que le gouvernement cherche à séduire les syndicats policiers, l'électorat de droite et d'extrême droite à un an des présidentielles et constitue un élément de plus de l'offensive répressive et sécuritaire qu'il mène depuis plusieurs années. À tel point que la Conférence nationale des premiers présidents, qui rassemble les chefs de juridiction du siège de toutes les cours d'appel de France et des territoires d'outre-mer, a publié une tribune, Ça suffit, dans laquelle les magistrats dénoncent, les accusations dirigées contre l'autorité judiciaire soupçonnée de faiblesse coupable dans la lutte contre l'insécurité et la criminalité. Une prise de position publique de magistrats assez rare pour être soulignée. Mais parassasiés de ces premiers cadeaux, les policiers et les syndicats policiers, notamment d'extrême droite comme Alliance, réclament un durcissement encore plus sécuritaire de la loi. Ils ont ainsi organisé la semaine dernière des manifs dans plusieurs villes de France. À Paris, le ministère de l'Intérieur était même présent à leur côté, ce qui nous a donné quelques idées. À quand le ministre de la Justice dans un cortège d'une manif Vérité et Justice ? À quand le ministre de l'Aménagement du Territoire en bottes et chemises de bûcheron à une levée de charpente à la ZAD ? En tout cas, ces rassemblements ont été salués à la quasi-unanimité par la classe politique française, jusqu'à Olivier Faure, qui, premier secrétaire du Parti Socialiste et présent également à ces manifestations, a demandé à ce que les forces de l'ordre puissent avoir un droit de regard sur les décisions de justice, et notamment en matière d'aménagement des peines. L'écologiste Yannick Jadot s'est lui ému du sort de la police nationale. « Nos policiers souffrent, il faut les écouter ». C'est justement ce qu'a fait notre ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti en durcissant encore la loi Confiance dans la justice la semaine dernière. Jeudi dernier, le ministre de la Justice a en effet proposé d'ajouter un amendement visant à supprimer purement et simplement le rappel à la loi du code de la procédure pénale. Alors pour rappel, ce rappel à la loi a été institué en 1999 et visait à sanctionner les petits délits sans que cela ne soit intégré dans le casier judiciaire. Et dès cette époque, cette mesure avait un but politique très précis, ne pas laisser les petits délits sans réponse répressive. Depuis sa création, le rappel à la loi a été contesté très fortement par les syndicats de policiers, notamment Alliance, qui est le syndicat majoritaire d'extrême droite chez les policiers, qui en parle comme l'expression, je cite, du laxisme envers des criminels et qui devrait être plus durement sanctionné. Au-delà de cet amendement sur la suppression du rappel à la loi, le gouvernement a donné d'autres gages importants aux forces de l'ordre en faisant voter toute une série d'amendements. Pour n'en citer que quelques-uns, la mise en place d'une période de sûreté de 30 ans pour les meurtriers de policiers et de gendarmes, la diminution de moitié des réductions de peine dont ils peuvent bénéficier, comme les terroristes, ou d'un tiers pour les auteurs d'agressions délictuelles à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique. Le rapporteur La République en marche du projet de loi, Stéphane Mazars, a d'ailleurs décrit ces amendements comme, je cite, « des gages que l'on peut donner aujourd'hui à nos forces de l'ordre, ce qui montre bien que la loi qui est en train d'être discutée à l'Assemblée devrait plutôt s'appeler « loi de confiance de l'État dans son appareil répressif ». Davantage de répression dans les quartiers populaires et contre le mouvement social face aux potentielles explosions sociales à venir, voilà de quoi la loi dite pour la confiance dans la justice est le nom.
Et on continue au national en parlant de la répression contre les lycéens mobilisés.
Ouais, on vous en a déjà parlé. De nombreux lycéens et lycéennes sont mobilisés depuis 15 jours au moins contre le bac Blanquer, hein, du doux nom de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Puisque malgré une année scolaire profondément chaotique pour les lycéens et lycéennes, et notamment pour les élèves de terminale qui passent le bac, eh bien Blanquer a décidé de maintenir dans leur presque intégralité les modalités d'examen de son nouveau baccalauréat qu'il veut à tout prix imposer, pourtant largement contesté depuis plusieurs années par les personnels et les lycéens et lycéennes. Notamment car cette réforme renforce, une fois n'est pas coutume, les inégalités entre établissements avec un bac à tiroir qui perd sa valeur nationale. Aujourd'hui et depuis plusieurs semaines, les lycéens et lycéennes se mobilisent donc sur le fond et contre le fond de cette réforme, mais surtout contre la forme que cela prend en contexte de crise sanitaire. Notamment contre la tenue de la nouvelle épreuve du grand oral à la fin de leur année scolaire, puisqu'ils considèrent qu'ils n'ont pas eu assez de préparation, ils ont bien raison, et que ça crée une inégalité territoriale. Comme bien souvent, l'un des moyens de pression des lycéens et lycéennes pour tenter d'instaurer un rapport de force, eh bien, c'est le blocage de leur établissement. Depuis de trop nombreuses années, la répression policière est particulièrement brutale, notamment dans les quartiers populaires, dès que les lycéens tentent de bloquer leur établissement. Elle nous l'a encore montré ces dernières semaines. La dernière en date a eu lieu au lycée de Bréquigny, à Rennes, ce vendredi. Alors déjà, le 10 mai, dans cet établissement, les flics avaient fait du zèle après une tentative de blocage avec l'appui de la direction, puisqu'ils étaient rentrés dans l'établissement en frappant violemment plusieurs élèves, avec son lot d'intimidations et de menaces devant l'établissement dans les heures qui ont suivi cette intervention dans le lycée. Les enseignants ont d'ailleurs fait une grève mercredi dernier contre la répression subie par les élèves. Ce vendredi, donc, les lycéens et lycéennes tentaient à nouveau un blocage, notamment avec des poubelles, stratégie classique pour bloquer l'entrée principale. Ils se sont rapidement fait charger par une voiture de police qui a renversé les poubelles, manquant de renverser un certain nombre de lycéens et lycéennes à la suite de cette jolie action. Puis, et le pire arrive, ils sont arrivés en nombre, les flics, afin de charger les lycéens. L'une d'elles, des lycéennes, s'est violemment faite plaquer contre un arbre, arracher son masque, provoquant l'arrachage d'une partie de sa boucle d'oreille, et sous la douleur, elle s'est mise à crier. L'un des flics, qui l'a bloqué contre l'arbre, lui a alors lancé à l'oreille « Ah, tu jouis là !» Il s'en est suivi pour cette lycéenne une garde à vue de 8 heures. Une autre lycéenne raconte également avoir subi des attouchements répétés de la part de certains policiers. Quand d'autres lycéennes encore racontent avoir été menacées de viol avec des, je vous les cite, « si je te rattrape, je te viole », relativement clair, ou encore « je vais te tringler », relativement clair également. Après cet épisode, les lycéens et lycéennes sont allés se cacher dans leur établissement, bien traumatisés par ces différentes scènes de violence et de menaces de viol, pendant que la direction est à nouveau restée de marbre, malgré la gravité de la situation. Alors, évidemment, ici, on déclare notre solidarité la plus totale avec les lycéens et les lycéennes du lycée de Bréquigny à Rennes, et bon courage pour la suite de cette mobilisation, parce que ça a l'air bien, bien dur, cette répression.
Et puis on continue avec un sujet sur les salariés de MBF.
Oui, les salariés de la fonderie MBF à Saint-Claude dans le Jura ont installé vendredi des bouteilles de gaz et d'oxygène dans l'entreprise en redressement judiciaire. Ils menacent de les faire sauter si l'usine ferme. Alors la fonderie MBF, elle produit des carters de moteurs et des boîtiers de vitesse pour PSA et Renault qui ne commandent désormais plus suffisamment. Tiens, ça nous rappelle les salariés de la souterraine de GMS qui, face aux mêmes donneurs d'ordre, avaient usé de la même menace pour obtenir gain de cause. D'ailleurs, le plan social de GMS a été annulé par le Conseil d'État et les salariés de GMS passaient devant les prud'hommes ce vendredi pour obtenir réparation, comme quoi ça vaut le coup de se battre. Mais revenons à la fonderie MBF. Les salariés qui sont en grève depuis 54 jours attendent le passage devant le tribunal de commerce ce mardi qui doit se prononcer sur l'unique offre de reprise. La semaine dernière, quatre délégués syndicaux avaient entamé une grève de la faim devant Bercy pour se faire entendre. Bruno Le Maire n'a visiblement pas jugé utile de leur accorder ne serait-ce qu'un entretien. En ce moment même, la fonderie de Bretagne, les fonderies du Poitou, de Luxfer, de la SAM sont dans une situation similaire avec toujours les mêmes donneurs d'ordre, PSA et Renault. Alors c'est une situation qui découle d'années de délocalisation puisque PSA et Renault préfèrent commander là où la main-d'œuvre est moins chère. En Europe, c'est principalement en Hongrie et en Espagne, et ce, malgré les nombreuses aides reçues de la part de l'État français. En réalité, ces constructeurs œuvrent eux-mêmes à la liquidation de toutes ces fonderies, car figurez-vous que le patron de MBF, qui a donc entamé la procédure de redressement judiciaire, a été placé là par Renault et PSA en 2012. Et il s'agit de Gianpiero Colla, un serial killer de sous-traitants automobiles. En 2017, il a racheté Transrochette pour le liquider en 2014. C'est aussi lui le fossoyeur de trois fonderies de Metal Temple entre 2008 et 2015. C'est aussi lui qui a racheté GMS en 2014, puis déposé le bilan en 2016. Avec des montages financiers aberrants, il rachète pour quelques euros les fonderies. Il obtient ensuite différentes aides de l'État, s'en fout plein les poches au passage et s'occupe de plans sociaux bien dégueulasses. Là où Colla passe, la justice sociale trépasse. En 2017, ce sympathique dirigeant s'est fait verser 1,7 million d'euros de dividendes. En 2018, 600 000 euros de frais de gestion. Il a aussi vendu les machines de MBF pour ensuite les récupérer en location, en leasing, multipliant donc par 3 les frais pour l'entreprise. Donc Gianpiero Colla est donc une bonne grosse merde, comme on les aime, qui mérite d'exploser avec les machines qu'il promet à la mort. Face à ces ordures capitalistes, tout notre soutien aux ouvriers, union, action, explosion.
Et après tout ça, on vous propose une petite pause musicale. Avant de vous parler donc des révoltes palestiniennes, on va vous passer une chanson du groupe de rap DAM, un groupe palestinien. La chanson s'appelle Min Imabi. Peut-être que les invités me corrigeront tout à l'heure. Et qui veut dire qui est le terroriste.
مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي مكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما قتلت إجدادي
أجل القانون
عن فاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أخطرية ديمقراطية
والله إنكم ناسية
من كتر ما اغتصبتوا النفس العربية
هبلت ولدت
ولا تسمع عمليا انفجارية وهنا ديتنا ارهابية
يعني ضربني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت
نطيت وحكيت
ما انتو بتخلي ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يضبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الاحجار وهلا لما وجع الفار بتناديني ارهابي
مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي
ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي
انا لحالي
اهلي تشردوا
راح اضلي انادي
انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يقضي تراسي بده يمحي واللي بيحكي كلمه بشد ورا همه بيكون زلمه
تعملوا منه رمه
ومين انتو لسه امتى خبرتوا اطلعوا قديش قتلتوا قديش قدمتوا امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا
بيخطوا
Vous êtes toujours sur Radio Canu, vous écoutez le Canu Info du 24 mai 2021 et on vient d'écouter une chanson de rap palestinien qui est le terroriste.
Et on passe tout de suite aux infos locales.
Ouais.
Et du coup, on va passer, notre jingle n'a pas fonctionné, mais on va passer à un petit reportage sur la victoire des cheminots contre la répression syndicale que subit leur camarade Joe depuis quelques mois. On écoute ça tout de suite. C'était mardi dernier à Pardieu.
Thank you.
salut, c'est Joël Morche. Je suis cheminot à Lyon-Part-Dieu depuis 12 ans. Je suis au départ des trains, enfin ce qu'il en reste, parce que maintenant là ça se termine, là, c'est... et la direction supprime des postes. Et j'ai été longtemps, je suis militant CGT, et j'ai été longtemps au CHSCT pendant 7 ou 8 ans. J'étais secrétaire de CH les dernières années avant que ça disparaisse aussi.
Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, la répression que tu subis depuis plusieurs mois déjà?
Alors moi je pense que, bon c'est mon avis mais c'est partagé, mes années de CH où j'étais vraiment, j'ai pas la direction, je les ai vraiment pas lâchées, j'ai pas été, j'ai, bon après bon, c'était, je faisais mon boulot hein, et je pense qu'ils se vengent parce que là j'ai plus de mandat, peut-être un peu plus fragile au niveau de la boîte, et ces dernières années même on va dire, c'est même pas ces derniers mois, j'ai des sanctions qui sont complètement hors de proportion, et puis là bah, l'apothéose ça a été une traversée de voie l'été dernier, où je suis passé en conseil de discipline, j'ai pris 12 jours de mise à pied, et encore 12 jours grâce à la mobilisation de mes collègues et de tous les sympathisants, sinon je prenais plus cher. Encore après ça, j'ai encore pris une autre sanction, mais alors là c'est bien descendu, je devais repasser en conseil de discipline, et finalement c'est descendu un jour de mise à pied, donc je suis bien soulagé, et là on fête un peu cette victoire avec les camarades là, sur le petit déjeuner là, ce matin. Là.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait ici ?
Ce qu'on fait ici, ben c'est quelque chose qu'on a eu trop rarement l'occasion de faire ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on fête une victoire d'une bataille collective pour défendre un camarade qui était victime de discrimination syndicale. Il a fait partie de ces nombreux militants, comme on en a vu à la RATP, comme on en a vu à la Poste, qui sont entrés dans le collimateur. Et contre qui la direction a fini par essayer de trouver le moindre argument pour le casser, voire le mettre dehors. Il a quand même pris 12 jours de mise à pied, ce qui fait un demi-salaire dans la vue, pour rien. Nous, on assimile ça à une amende pour militantisme, parce qu'au final, il a vraiment... Enfin, c'est disproportionné complètement comme sanction. On a mis en place une cagnotte de solidarité pour montrer que si on s'y met tous, et ben, la sanction de la direction n'aura pas de prise. Et ça a marché, parce qu'on a réussi à récupérer le demi-salaire auprès de la... grâce à la solidarité des collègues, qui sont d'ailleurs tous les travailleurs de la gare, je le précise. Il y a les cheminots SNCF, mais il y a aussi les collègues de la sécurité, puisque la SNCF a décidé d'externaliser et sous-traiter sa sécurité. Idem pour le nettoyage, on a les collègues du nettoyage qui sont venus nous apporter du soutien, et il y a aussi des camarades externes de PRH et puis même de hors de la SNCF. Donc ça a quand même super bien marché. On est super contents parce que comme ça Joe sera au moins tranquille financièrement parlant. Cela dit, dès que les 12 jours de mise à pied sont tombés, et ben, on a eu une espèce de coup de massue. Parce que Joe a reçu une deuxième demande d'explication pour avoir traversé un endroit où c'était autorisé, et donc on a vu l'acharnement, ils ont essayé de nous avoir à l'usure quoi. Et on a tenu bon, on s'est remis en ordre de bataille, et on a tellement bien fait ça, je pense que la direction a été surprise des arguments qu'on a rassemblés. On a quand même des collègues qui ont témoigné, Serfa à l'appui, que non, faut pas déconner quoi, c'est tout le monde fait ça, c'est autorisé, donc il n'y a pas de raison de sanctionner Joe pour ça, ou alors on sanctionne tout le monde quoi, et ça c'est évidemment inenvisageable. Donc Joe a finalement écopé de un jour de mise à pied. C'est pour nous toujours trop, mais c'est la sanction minimale que la direction devait mettre pour pas perdre la face complètement quoi. On est vraiment content d'avoir arraché cette victoire, puisqu'il n'ira pas et que il est tranquille quoi, pas de mutation disciplinaire, on était prêts, mais donc grâce encore une fois au soutien de tous les travailleurs de la gare, et j'insiste encore là-dessus sur le fait que c'est tout employeur confondu. Malgré les tentatives de division, parce que c'est jamais rien qu'une tentative de division, de fractionner les employés d'un même site entre divers employeurs, et on a réussi à sauver l'un des nôtres. Et c'est ce qu'on veut fêter aujourd'hui, c'est pour remercier tout le monde et redonner du baume au cœur à tout le monde, parce que c'est vrai qu'on a besoin de ça en ce moment.
Merci à ceux qui m'ont soutenu là, l'équipe, la fine équipe là, ils sont ici. Hein. J'ai une pensée pour les autres camarades qui sont emmerdés comme moi, voire pire. Je sais qu'il y a un gars à la RATP en ce moment, Ahmed, qui est mort sévère pour avoir dénoncé des violences sexuelles. C'est lui qui se retrouve à deux doigts de la porte, apparemment. Des collègues ici aussi au Vinatier qui sont emmerdés, des camarades qui sont emmerdés comme pas deux, parce que c'est des militants de la première heure. Je pense aussi au boulot, les réorgues. Là, on a une grosse réorgue chez nous, là, au mois de... Normalement, ça doit se mettre en place le 1er juin, ça va peut-être être décalé quelques mois. Donc on faisait des départs de train, on n'en fait plus rien, on va se retrouver à faire je sais pas quoi. Les collègues de différents chantiers qui sont obligés de venir bosser à Lyon, qui habitent à Valence, qui doivent prendre des chambres à la semaine sur Lyon, ça bouscule des vies, ils se promènent passe-partout, c'est infernal à vivre pour beaucoup de gens. Donc voilà, je pense à tous ces gens-là. Merci d'être passés et puis... La lutte continue. C'est à vous les gars.
Parce que bon, certes, en vrai, tu les as déjà reçus, mais ce serait quand même bien que... C'est vrai qu'il est où ?
Attends, je vais mettre mon mouchoir.
Allez, photo. Voilà. Au nom du comité de soutien de Joël Bar, nous avons le plaisir de vous remettre ce chèque d'une valeur de 626,72 €. Donc voilà, tu as les noms des donateurs ici, donc tous les travailleurs de la gare.
Et nous, mon patron. Hé, hey, Simon. Merci à tous ceux qui ont tourné la main au portefeuille. Hein,
voilà.
La solidarité ouvrière, comme c'est écrit, hein, c'est ça qui paye.
Exactement, exactement.
Merci à tous. Hein.
Voilà. Yeah.
Et donc vive la solidarité ouvrière et on reste un peu vigilant pour le cas de Joe, victime de répression à la SNCF. Et on enchaîne tout de suite avec l'annonce d'un rassemblement ce dimanche qui émane du collectif IDIR Vérité et Justice.
Espoir et solidarité.
Espoir et solidarité, pardon. Et on écoute tout de suite la maman de IDIR. Vous pouvez retrouver l'interview complète sur notre blog. Là, c'est juste un extrait. On écoute ça tout de suite.
Bonjour, aujourd'hui, donc nous sommes début mai 2021, on est avec Najet, la maman de Idir, qui, Idir, il est mort au mitard de la maison d'arrêt Lyon-Corba le 9 septembre 2020. Et c'était une mort très suspecte. Officiellement, selon l'administration pénitentiaire, c'était un suicide, mais ses proches n'y ont jamais cru. Et ont tout de suite monté une association, IDIR Espoir et Solidarité, et entamé un combat pour obtenir vérité et justice, et plus largement dénoncer ce qui se passe en prison et dans les mitards. Donc, bonjour Najet.
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom du... collectif IDIR Espoir et Solidarité, qui inclut plusieurs familles victimes de l'injustice pénitentiaire, et de nous avoir invités.
Vous avez déjà organisé plusieurs mobilisations, démarches, et là, le 30 mai 2021, vous allez organiser un événement.
Effectivement, on a organisé un rassemblement qui sera une journée de lutte annuelle à chaque dernier dimanche du mois de mai à l'échelle nationale. Oh. Le rassemblement du 30 mai à Lyon aura lieu place Bellecour à 14h. Vous trouverez toutes les informations sur notre page Facebook. Et sans oublier, nous remercions aussi toutes les personnes qui ont répondu à notre appel et vont organiser un rassemblement dans leur ville le même jour, à Nantes, Bordeaux, Perpignan, Béziers et peut-être Paris et Saint-Étienne. Nous faisons partie du réseau d'entraide Vérité et Justice qui regroupe des familles de victimes, des mutilés, des collectifs anti-répression qui luttent contre les violences d'État, entre guillemets, violences policières et violences pénitentiaires. Nous les remercions aussi pour leur soutien précieux. Et vous trouverez sur leur page les informations sur les rassemblements qui vont se passer ailleurs en France, en dehors de Lyon. Quoi. Merci.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est toujours le Canu Info du lundi. Et on va tout de suite passer à notre interview de la semaine, donc sur ce qui est en train de se passer en Palestine. On a aujourd'hui deux invités. Merci déjà d'être présents. Et est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter, s'il vous plaît ?
Ben, je me présente, Yamim Makri, je suis lyonnais de Vénissieux, militant associatif depuis 25-30 ans, sur différentes questions, ces questions des quartiers populaires, la question de l'islam de France, la question de la Palestine, etc., dans différentes questions, et puis à l'origine de beaucoup de structures, dont le collectif 69 de solidarité avec le peuple palestinien. Voilà,
très bien.
À Lyon, qui est la référence au niveau de tout ce qui est résistance sur la question palestinienne au niveau du théâtre lyonnais.
Merci.
Merci pour votre invitation. Donc, Aladine Adas, lyonnais aussi, avocat au barreau de Lyon, palestinien, franco-palestinien. Voilà, ça me fait plaisir d'être parmi vous pour parler de la Palestine et de ce qui se passe actuellement en Palestine.
Eh bien, on va commencer. Alors, est-ce que pour débuter, vous voulez bien rappeler un peu ce qui se passe, quelle est la situation actuelle à Gaza, mais aussi à Jérusalem-Est, et surtout, de quelle répression on parle, qu'est-ce que vit pour en ce moment le peuple palestinien ?
À vrai dire, parler de la Palestine, parler de Gaza particulièrement, parce que c'est ce qu'on entend le plus aujourd'hui, c'est parler d'un conflit, d'une expropriation de terres qui dure depuis à peu près 80 ans. Donc, ce que vous voyez à Gaza, c'est une, en fait, c'est un rappel de ce que les Palestiniens ont vécu depuis la création de l'État sioniste en Palestine, donc les plans de partage, donc qui ont créé un État dans un État palestinien. Ceux qui n'avaient pas le droit, ils ont créé un État dans un pays, donc qui ne leur appartenait pas. Et donc, on passait de massacre en massacre. Certains massacres ont passé sous silence. Ceux auxquels on assiste depuis une vingtaine d'années, on va dire, à Gaza, font parler, font beaucoup de bruit, parce qu'avec la médiatisation, mais voilà, c'est un conflit qui dure depuis un moment. Malheureusement, comme vous le savez, le blocus de Gaza qui dure depuis à peu près une quinzaine d'années, on en parle peu. On en parle notamment lorsqu'il y a beaucoup de sang qui coule, lorsqu'il y a les bombardements israéliens sur le peuple palestinien, mais un peuple qui est sous blocus depuis 15 ans, ne peut pas rentrer, ne peut pas sortir, il n'y a pas moyen médicaux, pas moyen de transport, pas d'infrastructure sur place. Donc voilà, ils subissent ça depuis des années et on en parle peu, sauf que voilà, lorsqu'il y a des bombardements, donc on en parle.
Oui, parce qu'aujourd'hui, là, la situation à Gaza est une nouvelle fois catastrophique pour les populations civiles notamment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui est en train de se passer là aujourd'hui et pourquoi ça se passe ?
Voilà, alors, donc il y a quelques éléments à rappeler, quelques principaux éléments à rappeler au sujet de déclenchement de ce dernier massacre, parce qu'il y en a qui appellent ça une guerre c'est entre deux pays, entre deux armées, alors que lorsqu'on a la troisième puissance mondiale qui bombarde une population avec une densité où, vraiment c'est la densité en termes de population la plus grande au monde, il est tout à fait normal que c'est un massacre, c'est un génocide, et les qualifié. Donc ce qui se passe actuellement, c'est malheureusement le fruit d'années aussi d'humiliation, de pression à l'égard du peuple palestinien. Ça a commencé en Cisjordanie, mais particulièrement récemment, ça s'est passé à Jérusalem, dans le quartier est de Jérusalem, ce qu'on appelle un quartier qui s'appelle Sheikh Jarrah. Donc c'est un quartier qui est assez connu, où ce qu'on a vécu dans les années 20, les 30, 40, jusqu'à maintenant, on débarque, les sionistes débarquent dans un pays, dans un quartier, dans un coin. Ils disent, écoutez, nous, on veut, compte tenu de l'importance stratégique de ce quartier, on veut plus d'Arabes, on veut plus de Palestiniens dans ce coin. Vous allez être virés, comme ils ont fait dans les années 40. Et les Palestiniens résistent, ils leur disent, non, c'est notre terre. Du coup, voilà, les Palestiniens, comme c'est un pays uni, donc les habitants de la Cisjordanie, les habitants de Jérusalem, les habitants de Gaza, ils se sont dit non. Ça suffit, c'est-à-dire on ne peut pas rester les bras croisés, et donc ils ont exprimé leur mécontentement, et malheureusement les Israéliens, leur seul moyen de discussion, c'est de bombarder, de tuer des civils. Voilà, c'est depuis la création de l'État d'Israël, c'est comme ça.
Et est-ce que tu peux venir un peu plus précisément sur la composition de cette résistance populaire? Est-ce que c'est surtout des jeunes? Est-ce qu'il y a des groupes organisés, militarisés? Est-ce voilà. que tu peux détailler un petit peu?
En fait, malheureusement, souvent dans les médias français classiques, on parle de le Hamas qui attaque l'Israël. Ils ont réduit la population palestinienne à un mouvement de résistance, qui est un mouvement de résistance comme d'autres. Voilà, ils l'ont réduit. Sauf qu'aujourd'hui, la population palestinienne résiste, femmes, enfants, vieillards, ils veulent avoir leur liberté, ils veulent vivre sereinement, vivre en paix dans leur pays, ils veulent que les résolutions des Nations Unies votées depuis plus de 80 ans soient appliquées à pied d'égalité sur tout le monde. Ces gens-là qui sont dans une prison, à ciel ouvert, et on parle souvent de Gaza, mais on ne parle pas de la Cisjordanie, on ne parle pas de la discrimination contre les Arabes palestiniens qui vivent en Israël, qui ont la nationalité israélienne, avec une justice à géométrie variable. On ne parle pas des habitants de l'Quds aussi, qui sont prisonniers chez eux. Chez eux, ils ne peuvent pas réparer une porte, ils ne peuvent pas construire une maison, une petite chambre. Donc, c'est une résistance populaire menée par tous les Palestiniens. Et d'ailleurs, il n'y a pas que... Il y a aujourd'hui, fort heureusement, en Palestine, il y a les organisations internationales qui viennent visiter. C'est des résistants aussi. Donc, c'est une résistance populaire, certes, en Palestine, mais tout homme et femme libre dans le monde soutient cette résistance parce que c'est l'une des derniers pays, ou l'un des derniers pays qui est aujourd'hui militairement occupé et à qui on ne donne pas la reconnaissance.
Alors justement, tu parlais de l'ONU, bon là il y a eu un cessez-le-feu qui a été validé à l'échelle internationale par des organisations comme l'ONU ou certaines puissances impérialistes occidentales. Est-ce qu'il a été respecté ce cessez-le-feu par l'État d'Israël ?
Alors, aucunement. Alors, je vous garantis, peut-être ils ont cessé les bombardements, mais aujourd'hui, avant de venir vous voir, il y a deux Palestiniens qui ont été assassinés en Cisjordanie. Il y a des arrestations à l'intérieur même de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël contre les Palestiniens.
Plus de 200 personnes.
Voilà, 200 personnes.
Cette nuit et ce matin.
Voilà, donc l'oppression.
Cette nuit et ce matin, plus de 200 personnes ont été arrêtées. En particulier, ce sont tous des gens de Jérusalem et de Cisjordanie.
Exactement.
Des territoires occupés.
Alors, il faut savoir qu'il y a le cessez-le-feu, mais le blocus de Gaza est toujours là. C'est-à-dire là, on ne laisse pas rentrer la nourriture, on ne laisse pas rentrer il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole.
Chantage sur l'électricité actuellement.
Exactement, exactement. Donc c'est une souffrance humaine que tout le monde voit, mais personne ne veut en parler. Et naturellement, comme vous l'avez rappelé à juste titre, parce que les puissances mondiales, aujourd'hui, ne veulent pas froisser les relations avec l'entité sioniste qui, de par ses lobbies, est présente un peu partout dans le monde.
Et il faut savoir qu'actuellement, les jeunes de Sheikh Jarrah, de Jérusalem, d'El Quds et de Cisjordanie, ils continuent. C'est-à-dire que ce sont les bombardements qui sont arrêtés. Il y a un accord entre les mouvements de résistance armée à Gaza et l'État raciste d'Israël. Mais la population des territoires occupés et de territoire 48 aussi, hein, même de ce qu'on considère comme étant Israël, eux continuent, ils continuent à manifester, etc. Ça ne s'arrêtera pas. Et il y a une décision de justice par rapport aux expropriations qui va arriver, et ça va certainement être négative, et ça va relancer, quoi. C'est loin d'être terminé, quoi. Et c'est vrai que ce qui est le plus spectaculaire, c'est les bombardements israéliens et la petite réponse des mouvements armés de Gaza. Mais c'est ce qui est resté le plus spectaculaire, ce qui peut-être a fait un peu peur au gouvernement sioniste. Mais la résistance du quotidien, elle continue. On va moins en parler, ce ne sera plus dans les médias, mais elle continue. Et c'est celle-là qu'il faut aussi soutenir.
Surtout que là, il y a quand même à reconstruire, vu le nombre d'immeubles, d'habitations qui ont été une nouvelle fois détruites, anéanties, absolument, la manière la plus horrible qui soit, par des bombardements. Tout, derrière ça, plus personne ne va en parler, effectivement, mais il y a tout ce travail-là qui va une nouvelle fois devoir se reproduire.
Bien sûr, malheureusement, c'est une succession d'événements qu'on connaît. Après chaque guerre, il faut négocier comment ça va rentrer. Israël, naturellement, il va imposer que ça sera les matériaux pour reconstruire doivent passer par Israël, pour qu'Israël aussi ait son chèque. Les pays européens vont commencer à négocier, mais en fin de compte, c'est...
Ils ont même imposé que tout ce qui est argent, ça passe par l'autorité palestinienne.
Bien sûr.
Qui est actuellement considérée par tous les Palestiniens comme étant la collaboration. Hein, c'est l'autorité collaborante, donc et c'est un vrai problème.
Effectivement, effectivement. Après, les pays européens, vous avez constaté, par exemple ici en France, un silence assourdissant qu'on a observé alors qu'on voyait les morts tous les jours. On voyait les morts, mais malheureusement, les pressions, les lobbies, ici en France comme ailleurs, sont telles que malheureusement, on ne peut pas critiquer l'État sioniste.
Alors, justement, il y a une mobilisation internationaliste, heureusement, avec à la fois la diaspora palestinienne, mais aussi pas mal de mouvements qui décident de s'organiser toujours pour soutenir ce peuple palestinien. Ils en ont bien besoin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui a pu se passer à l'échelle nationale ou à l'échelle lyonnaise, là, depuis ces dernières semaines? Comment ça s'organise? Comment on peut, à notre échelle, locale ou nationale, rentrer dans la bagarre pour soutenir la population palestinienne?
La première chose, c'est s'informer. Parce qu'il faut comprendre ce qu'est la question palestinienne. La question palestinienne n'est qu'un révélateur de toutes les discriminations, de toutes les oppressions et de tout l'arbitraire et le déni au droit qu'on donne à certains peuples dans le monde entier. Vous savez, en Palestine, vous avez trois types de populations palestiniennes. Vous avez ceux qui sont dans les territoires 48, ce qui correspond à Israël, hein, officiellement les territoires, ce que l'ONU reconnaît comme étant les frontières d'Israël, donc ceux qui vivent à l'intérieur de ces frontières-là, qui vivent la discrimination, qui sont des sous-citoyens, hein, actuellement. Ces Palestiniens de l'intérieur sont des sous-citoyens. Il faut voir quel calvaire ils vivent actuellement. D'ailleurs, nous, en tant que personnes qui venons des quartiers populaires, ben, ça nous parle. Ça nous parle, la sous-citoyenneté, hein, ça nous parle, nous. Donc c'est parlant, c'est parlant. C'est pour ça que la Palestine, elle chauffe les corps. Après, vous avez des territoires occupés. Vous avez une population qui est occupée par une puissance étrangère, ça. Et ça parle au peuple aussi. Des peuples qui n'ont pas le plus droit de s'exprimer. Et puis, vous avez une autre population palestinienne qui est sous un blocus. Et ça parle. Ça parle, on a vu qu'il y a des pays, des populations qui ont souffert d'un ordre international, en particulier américain, mais pas qu'américain, occidental. On parle de l'Irak, on va parler d'autres pays qui ont subi un blocus, qui a été infâme. Nous avons toutes les aberrations, tous les dénis aux droits qui sont concentrés dans un petit territoire. Et c'est pour ça que la Palestine, elle réveille tous les corps. Qu'on soit musulman ou pas, croyant ou pas, athée, etc. C'est secondaire, qu'on soit palestinien ou non palestinien. La Palestine, c'est une concentration d'injustice. C'est un des rares territoires qui reste où il y a une vraie colonisation. Il y a des territoires encore, ça existe, il n'y a pas que la Palestine. Mais cette manière comme ça, qui est tellement brutale, et surtout avec l'acquiescement de l'opinion internationale, qu'on peut, pas l'opinion des autorités internationales,
de, ONU, des organisations internationales comme
et des États.
Et des
puissances. Le rapport dominé, c'est une caricature en Palestine. C'est une caricature. C'est pour ça que, quand on en parle, d'où qu'on vienne, quelles que soient nos origines, ça parle. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se sentent très mal à l'aise sur la question palestinienne. On est très mal à l'aise sur la question palestinienne, parce que c'est un révélateur. C'est un révélateur de valeurs auxquelles on croit et qu'on trahit en permanence. C'est valable là-bas, c'est pas valable en Palestine. Qu'est-ce qu'on demande? À un moment donné, on posait une question, qu'est-ce que vous voulez pour les Palestiniens? Ben, je veux qu'ils vivent ce que je vis en France. Le même combat qu'on nous, par exemple, arabes, noirs, africains, etc., des quartiers populaires, on veut une citoyenneté égalitaire. On veut le droit pour tous. On ne veut pas un double droit. On veut le droit au logement pour tous. On veut le droit au travail pour tous. On veut la même chose en Palestine. On veut ça. Après, la manière dont ils vont s'organiser, entre la présence d'une population occidentale, et même pas qu'occidentale, juive occidentale qui est arrivée en Palestine, comment ils vont régler ce problème-là? Des gens qui doivent revenir sur leur terre, etc. Ça leur regarde, c'est à eux de... Mais le principe, c'est les valeurs. Et sur ce point-là, on rassemble. C'est pour ça que sur la question palestinienne, quand on fait des manifestations, on en a fait deux à Lyon, ça rassemble. Sur d'autres questions, ça ne rassemble pas autant. Ça rassemble au-delà des confessions et au-delà des appartenances. Et par contre, ça divise aussi. Ça divise. Parce que des sionistes, on parle des sionistes, il y a des sionistes en France, ça. On a maintenant des arabes sionistes. On a des gens qui trahissent leurs propres valeurs. C'est pas spécifique à l'Occident. On a des... Voilà.
Et est-ce que tu veux justement revenir un peu sur, sur la situation de soutien à Lyon, donc sur le collectif dont tu parlais, le collectif Palestine 69.
Voilà, le collectif Palestine qui est très présent sur la question et qui l'est de manière permanente, et ça c'est tout à leur honneur. Ils n'attendent pas des bombardements et du sang pour être présents, ça c'est une chose. Après, il y a des comités de soutien autonomes, et là le vrai travail qui se mène actuellement, au-delà de l'information, au-delà des manifestations, et au-delà de toutes les convergences qu'on doit faire aussi avec les autres luttes dans le monde, il y a un point qui est très important, c'est la question du boycott. Ça, s'il y a une question centrale pour nous qui vivons en Occident, en France en particulier, c'est le boycott.
La campagne BDS,
boycott, la campagne BDS, la campagne, voilà. Ouais. Alors, désinvestissement, sanctions, c'est un autre travail, qui est un travail qui est beaucoup plus élaboré, tout d'accord. Ça et tout. Hein, c'est travailler au niveau des entreprises, faire en sorte de les boycotter, faire en sorte de faire intervenir des élus, etc., pour que, en particulier par le métro de Jérusalem, faire en sorte qu'il ne se construise pas. C'est pas normal qu'une entreprise française construise un métro de Jérusalem sur des territoires qui ne sont pas officiellement, qui n'appartiennent pas à l'État d'Israël. Donc, ça, c'est un vrai travail aussi, qui est un travail d'élus, de lobbying. Mais il y a un travail de citoyen. Il y a un travail individuel et collectif qu'on peut faire, c'est le boycott. Ce n'est pas normal que dans nos supermarchés, vous avez des avocats, vous avez des pommelons, vous avez des oranges, où c'est inscrit Israël, alors qu'on sait fort bien, tout le monde le sait, parce que la plupart de ces fruits et de ces légumes sont cultivés dans les territoires occupés. C'est du recel. C'est du recel, et ça se fait avec la complicité de l'État français, parce qu'ils n'ont pas droit. Ça se fait avec la complicité avec ces hypermarchés qui, eux, acceptent dans les cryptos. On a une loi européenne, on a une loi française, on doit donner l'origine exacte. Or, les territoires occupés, ce n'est pas Israël d'après le droit international et d'après le droit français. Ce n'est pas Israël. Donc, ils ont le droit de les vendre. Ils ont le droit de les vendre. Mais qu'ils mettent l'origine, qu'ils mettent territoire occupé, qu'ils mettent colonie. Et ça, c'est un vrai combat qu'on doit mener. C'est un vrai combat et c'est pas normal parce que les personnes qui achètent ces produits-là, c'est du recel. Ils sont pas mieux que des personnes qui achètent des choses volées dans les quartiers. Donc c'est du vol. Il faut à tout prix qu'on ait cette prise de conscience. Et il y a d'autres sujets au niveau de la campagne de boycott. Mais actuellement, à Lyon, nous, on assume, on travaille énormément sur ces questions-là et on aura des actions très, très claires sur ces questions.
Alors, si les gens qui nous écoutent veulent se renseigner et avoir des dates là, à venir concrètement sur ce qui va se passer à Lyon ou pour essayer d'intégrer la campagne de boycott, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner éventuellement sur Internet et quelles sont les prochaines étapes là, à venir la semaine prochaine, dans les semaines à venir par rapport à la situation à Lyon pour lutter en faveur du peuple palestinien?
Eh ben, je leur demande tous à intégrer un canal Telegram qui s'appelle Nouvelles de Palestine. Okay. Qu'ils fassent une recherche, Nouvelles de Palestine. Ils prennent le lien, ils intègrent le canal Telegram. C'est un fil d'information. Nous, on fait de l'information qui prend l'information à la source. Nous avons des amis palestiniens qui se trouvent à Gaza, à Jérusalem et dans les territoires occupés qui nous font un point d'information. On fait des émissions aussi à travers ce canal Telegram avec des Palestiniens. Mais ce n'est pas que seulement ça. Ce n'est pas de l'information pour de l'information. C'est de l'information pour réagir et pour agir ensemble. C'est pour agir ensemble et pour s'organiser au niveau de Lyon en particulier, où on organise des groupes qui font des actions boycott. Voilà. Donc nous, on fait des actions dans les hypermarchés à Lyon, dans les supermarchés, et on fait des campagnes d'affichage pour sensibiliser la population, toute la population, que ce soit dans les quartiers ou que ce soit en dehors des quartiers, qui s'engagent sur cette voie-là.
Si vous permettez juste un mot avant de finir, c'est vraiment, c'est un message aussi de soutien à apporter au peuple palestinien, c'est de se renseigner sur l'histoire, de s'informer sur l'histoire, comment un État a été créé dans l'État, comment un peuple a été exproprié de sa terre pour créer un autre État. On dit souvent que c'est un contexte complexe, c'est un conflit complexe, alors que le conflit se résume en une seule phrase. Des gens qui sont venus de tous bords dans le monde, on leur a dit, écoutez, il y a une terre sans peuple, là-bas, qui est la Palestine, alors qu'il y a les Palestiniens, on va vous donner cette terre. Et donc, c'est un conflit
On va leur donner une terre qui ne leur appartenait pas.
Qui ne leur appartient pas. Donc, les Britanniques, les Français ont participé à ça, et leur ont dit, on va vous donner une terre où il n'y a personne, alors que...